Nous allons reprendre. Il faut bien comprendre que tout ça est une reconstitution à partir de sources diverses qui sont souvent des sources mémorielles, donc contradictoires, d'autant plus que l'essentiel des mémoires d'acteurs ont été rédigées après l'échec du processus de paix. Donc chaque acteur explique combien lui il avait raison et combien c'est la faute aux autres si ça a échoué. Donc c'est un splendide exercice d'analyse de documents historiques. Je rêverais un jour de faire un séminaire de 15 ou 50 heures avec des étudiants sur les mémoires de Dennis Ross pour montrer combien on peut subtilement modifier une phrase, passer sous silence un fait, etc., etc. Mais il se trouve que du côté américain, il n'y a même pas, semble-t-il, de dossier de synthèse sur le processus de paix, et que l'on considère que le dossier de synthèse, ce sont les mémoires de Dennis Ross. Évidemment, ça reste encore tout à fait ouvert. Et d'ailleurs, dans la partie des dernières heures de cours de cette année, les trous documentaires sont de plus en plus importants. Et donc, il faut bien prendre l'exercice de ce cours tel qu'il est, c'est-à-dire de l'histoire du temps présent et de l'histoire immédiate. Nous sommes en train de faire un type d'histoire qui n'est pas de l'histoire de la Révolution française, dans lequel toutes les sources sont disponibles, on peut comparer, varier, etc. Là, pour l'instant, nous avons des informations parcellaires. Et bien évidemment, ce n'est qu'un état provisoire de la connaissance. Ceci est un rappel, parce que j'avais tendance à donner l'impression que je parle du processus de paix en l'an 2000 comme si je parlais des négociations de Napoléon en 1800. Donc maintenant, nous reprenons. Alors, puisque le canal officiel cafouille, Ross va miser sur le second canal. Dans les premières discussions, Abouarla rejette comme point de départ l'extension actuelle des colonies juives, qui sont illégales du point de vue du droit international. Il n'est prêt à examiner que les besoins de sécurité de l'État hébreu afin de trouver des accommodements compatibles avec la formation d'un État palestinien. Tous sont d'accord que l'on ne peut progresser qu'à l'abri des médias et en évitant toute fuite. La moindre divulgation du contenu des discussions provoquerait immédiatement des réactions véhémentes dans les opinions publiques. Fort heureusement, le gouvernement suédois a offert d'abriter discrètement de telles rencontres, permettant l'isolement nécessaire. On se met donc d'accord pour se réunir dans la banlieue de Stockholm. Donc, ce second canal va prendre le nom code de Stockholm. On va voir ce qu'il donne. Alors, le 7 mai, Barak rencontre Arafat et lui promet la restitution des trois villages au moment approprié. Mais il n'a pas la majorité au gouvernement pour prendre une telle décision. Je rappelle que dans le système israélien, on vote deux fois. On vote pour les décisions essentielles au sein du gouvernement et puis ensuite on vote à la Knesset. Ce n'est pas comme dans le système français où il n'y a pas de vote au Conseil des ministres. Du côté palestinien, le Fatah comme le Hamas lance une nouvelle campagne pour exiger la libération des prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes, cause immensément populaire. Et donc, la situation arrive au début du mois de mai, qui est toujours marquée par les célébrations successives, d'abord sur le calendrier hébraïque, et puis ensuite sur le grégorien, de la création de l'État d'Israël et de la Nakba. En Israël, les célébrations sont marqués par le fait qu'un certain nombre de municipalités arabes refusent de célébrer, ce qui constitue une tragédie pour leur propre histoire. Sharansky, ministre de l'Intérieur, venu visiter une ville arabe en tant que ministre, doit se retirer protégé par la police devant une pluie de pierres. Dans la presse israélienne, on parle de déloyauté des populations arabes, tandis que d'autres soulignent les discriminations diverses qu'elles subissent. Le vrai problème est que la définition de l'État d'Israël en tant qu'État juif, dans un double sens ethnique et religieux, interdit l'émergence d'une commune identité israélienne. La revendication d'un État de tous les citoyens ne doit pas dissimuler un processus de palestinisation de la population arabe qui prend ses distances par rapport à l'État hébreu. Mais en même temps, la progression des mouvements islamistes se fait au détriment des forces de gauche laïques et nationalistes, comme le montre l'affaire toujours non réglée de la mosquée de Nazareth. Le 15 mai, à l'occasion de la commémoration de la Nakba, la catastrophe palestinienne de 1948, la situation s'aggrave dans les territoires. Des milliers de Palestiniens s'en prennent au poste de l'armée israélienne qui riposte par des tirs de gaz lacrymogène et de balles enrobées de caoutchouc, puis par des tirs à balles réelles. Des policiers palestiniens tirent alors sur les soldats israéliens. 5 Palestiniens sont tués et d'autres blessés. Ce qui constitue le pire des incidents depuis 1996. Néanmoins, le même jour, Barak réussit à obtenir l'approbation du gouvernement et de la Knesset pour le transfert des 3 villages de la zone B à la zone A. C'est dans ce contexte qu'ont débuté les entretiens de Stockholm le 12 mai 2000. Barak a donné comme instruction à ses négociateurs d'arriver à un accord sur la base de 77% de la Cisjordanie aux Palestiniens, 13-15% aux Palestiniens et 8 à 10% à négocier ultérieurement. Il n'est pas question d'échange de territoire et on n'abordera Jérusalem qu'à la fin quand les autres dossiers auront été réglés. Après les bonnes paroles de chaque côté sur la nécessité de faire des compromis et de préparer son opinion publique, on entre dans le vif du sujet. Abou Ala est prêt à prendre en considération les besoins de sécurité de l'État hébreu, mais cela ne peut se traduire sous forme de modifications territoriales. Les lignes du 4 juin sont les frontières du futur État palestinien. Mais on a à peine commencé que la radio militaire israélienne annonce la tenue de la réunion secrète à la suite d'une fuite venant certainement de la part d'un des négociateurs palestiniens du canal officiel, mécontent d'être marginalisé. Cela diminue considérablement la marge de manœuvre des intéressés. Ça, c'est un des gros facteurs pour l'échec du processus de paix, c'est les fuites. Et les fuites viennent des deux côtés à la fois, nées des divisions internes, aussi bien du côté israélien que du côté palestinien. Ce sont à la fois des rivalités de pouvoir, mais aussi des oppositions doctrinales sur le contenu de la paix, qui explique que c'est jeu de fuite. Cher propose alors un document présenté comme ses réflexions personnelles. Abou Ala rejette tout ce qui est annexion israélienne. Pour lui, les colonies ne représentent que 1,8% de la Cisjordanie et on ne peut discuter au-delà de ce chiffre. La partie israélienne, voilà une ouverture qui pourrait mettre fin à la référence aux lignes du 4 juin. Le 14 mai, Ross se joint au groupe de Stockholm. Il s'entretient séparément avec les uns et les autres. Il est intéressé par les ouvertures d'Abou Ala, mais souligne l'ampleur des divergences. Les Palestiniens paraissent prêts à aller jusqu'à accepter une annexion de quelques pourcents, mais certainement pas les 13% auxquels pensent les Israéliens. Ils veulent maintenant entendre des propositions claires et précises, et non les formules ambiguës des accords intérimaires qui ont abouti pour eux à avoir beaucoup moins que ce qu'ils avaient cru comprendre. Les violences du 15 mai influent sur l'ambiance générale. Ross ne comprend pas pourquoi Arafat complique ainsi la tâche de Barak. Il ne lui viendra à l'esprit que plus tard que le chef palestinien pourrait aussi avoir des problèmes avec son opinion publique et qu'il cherche peut-être à la fois à augmenter la pression sur les négociations tout en permettant à la colère palestinienne de se décharger. L'émissaire palestinien américain se rend immédiatement en Israël. Le 16 mai, au matin, il voit Arafat qui lui affirme contrôler la situation. Pour Ross, le calendrier est tout. Il faut enregistrer des progrès substantiels dans le dossier palestinien avant le retrait israélien du Liban. Mais le chef palestinien ne se montre pas pressé. Il semble encore croire en la possibilité d'un accord israélo-syrien. Outre la volonté de faire payer à Barak ses atermoiements des mois précédents, les négociateurs palestiniens ne veulent pas entrer dans la problématique américaine. Il n'est pas question de céder sur la question territoriale. Les Palestiniens ont fait leur concession maximale en adoptant les lignes du 4 juin lors des accords d'Oslo. Ils ont alors abandonné 78% de la Palestine historique. Ils n'iront pas plus loin. C'est ce qu'Abou Mazen explique à Ross lors d'un entretien particulier. L'Américain ne veut pas croire qu'il s'agit là d'un consensus palestinien et voit une manipulation d'Arafat jouant sur les compétitions internes de son équipe. Le premier qui céderait en acceptant le principe de concession territoriale se trouverait cloué au pilori. Quant à Barak, il prend le prétexte des violences pour retarder une nouvelle fois le transfert des trois villages. Il n'est pas non plus question de libérer les prisonniers. Il demande à la fois une accélération des négociations tout en refusant d'appliquer ses engagements antérieurs, en dépit de la garantie donnée par Clinton aux Palestiniens. La politique israélienne est dominée par la question du retrait du Liban Sud. La situation s'est tendue au début du mois de mai. Le 4, à la suite d'un bombardement israélien qui a tué par erreur deux civils libanais, le Hezbollah a répliqué par des tirs sur la Galilée, tuant un soldat et en blessant 25 personnes. Israël attaque en représailles des infrastructures civiles libanaises, deux centrales électriques et la route Beyrouth-Damas. Le Hezbollah reprend ses tirs et le gouvernement israélien s'en tient là pour éviter un processus d'escalade. La résistance islamique proclame sa victoire. De fait, l'armée israélienne accélère le démantèlement de ses installations dans la zone occupée. Il est clair que la date limite du mois de juillet est devenue irréaliste et qu'il faudra procéder plutôt au retrait. Pendant ce temps, on travaille à tracer la ligne bleue sur laquelle l'armée israélienne doit se retirer. L'équipe de l'ONU fait la navette entre les équipes israéliennes et libanaises. Cette ligne bleue doit suivre la ligne d'armistice de 1949, dénoncée par Israël, qui elle-même recoupe la frontière mandataire. Sous la direction du général Jamil Sayed, la partie libanaise a tenté d'établir de nouveaux contentieux pour gêner le retrait israélien. Le premier n'a pas fait long feu. C'est l'affaire dite des sept villages. Il s'agit d'un certain nombre de localités qui faisait primitivement partie de l'État du Grand Liban lors de sa proclamation par le général Gouraud le 1er septembre 1920 et qui ont ensuite été rétrocédés au mandat palestinien par les Français. Ils étaient au nombre de 24, 12 villages sunnites, 2 maronites, 1 grec catholique, 2 juifs et 7 chiites. En 1949, les Israéliens se sont emparés de ces villages et les ont détruits pour établir à la place des implantations israéliennes. Donc c'est sept villages sur cela. Dans l'un d'entre eux, un massacre a fait 70 victimes. Les habitants se sont réfugiés au Liban et ont été définis comme palestiniens. Dans les années 1950 et 1960, les chrétiens ont reçu la nationalité libanaise. Sous la pression de Hezbollah et d'Amal, les chiites des sept villages sont naturalisés libanais en 1994. Du fait du rôle moteur des mouvements chiites, on n'a pas tenu compte des 17 autres villages. Donc, c'est déjà visiblement un prétexte, puisqu'il y avait 24 villages, on n'en parle que de 7. L'État libanais tente de revendiquer ces lieux, mais la légitimité de la cause est trop fragile. Ils sont bien en dehors du territoire libanais. Le 4 mai, Jamil Sayed avance un autre dossier, celui des fermes de Sheba. L'affaire est plus compliquée, puisque cette localité se trouve à la jonction du Golan syrien occupé et des territoires libanais, ce qu'on appelle la zone des trois frontières, entre la frontière israélienne, la frontière syrienne et la frontière libanaise. Là, pour différentes raisons, les autorités mandataires françaises n'ont pas procédé à une délimitation dans ce secteur de la frontière libano-syrienne. Et après l'indépendance, Damas a continué de s'y opposer. Il existe bien une ambiguïté sur l'appartenance de ce petit territoire. De surcroît, s'ajoute la question juridique de savoir s'il a été occupé en juin 1967. Dans ce cas, il ressort de la résolution 242, ou si cela s'est produit ultérieurement et donc concerne la résolution 425. Enfin, Damas utilise ce contentieux pour entraver le retrait israélien, mais n'abandonne pas sa propre revendication sur ce secteur. Donc, clairement, les Libanais revendiquent le secteur des fermes de Sheba comme étant un territoire libanais. Or, la Syrie maintient que c'est un territoire syrien, mais ferme sa gueule en quelque sorte, rien que pour embêter les Israéliens. Quant aux Israéliens, de toute façon, ils ont procédé de leur façon habituelle, ils ont hébraïsé le nom du secteur et ils l'ont appelé le mont Dov, D-O-V. Le chef de l'ALS appelle le gouvernement libanais à accorder une amnistie générale à ces hommes dont il serait lui-même exclu. Sinon, il menace de s'enfermer avec ses troupes dans un réduit à la frontière libanaise. C'est une mesure désespérée parce que tout le monde sait que s'ils restent au Liban, ils seront jugés comme collaborateurs d'Israël et qu'ils n'ont pas les moyens de se confronter avec le Hezbollah sans le soutien de l'armée israélienne. De plus, l'ONU exige un désarmement préventif de la milice avant tout déploiement de la FINUL dans la zone frontalière. Dans le cas contraire, elle refusera de certifier que la résolution 425 a été intégralement appliquée. Quant au Hezbollah, il offre le pardon à tout milicien qui tuerait un Israélien ou un responsable de l'ALS. Le 9 mai, l'armée israélienne évacue le village d'Aramta, à proximité de Jezine, après 14 ans d'occupation. La population pleure des larmes de joie en accueillant les premiers visiteurs. Là, vous avez une magnifique photo d'une jeune femme retrouvant sa mère après 7 ans de séparation. Ce bourg, qui comprenait 5000 habitants en 1978, n'avait plus que 110 résidents. C'est le début d'un retrait gradué des positions israéliennes cédées à l'ALS, à qui on retire parallèlement son armement lourd. Donc vous voyez là le démantèlement des installations militaires israéliennes. Le Hezbollah multiplie les attaques et Barak renonce à se rendre à Washington du fait de l'aggravation de la situation. Le 18 mai, les discussions de Stockholm reprennent. Al-Kabou Arla voulait que l'on aborde directement les dossiers les plus importants. La partie israélienne s'en tient aux questions de procédure. Faut-il une troisième partie, c'est-à-dire les Américains, dans les discussions? Peut-on arriver à un accord cadre sans avoir réglé la question des réfugiés ou du territoire? À quel moment prononcera-t-on la fin du conflit? Quel sera le statut de l'OLP après la création de l'État palestinien? On commence néanmoins à rédiger un projet d'accord cadre listant les accords et les désaccords sur chacune des questions. Les Israéliens, sur instruction de Barak, refusent de mentionner le dossier de Jérusalem. Dans les discussions de couloir, il est question de mettre les quartiers arabes sous souveraineté palestinienne, les juifs sous souveraineté israélienne. La question de la vieille ville reste la pierre d'achoppement avec en premier lieu savoir qui aura la souveraineté sur le Haram al-Sherif, mont du Temple. Le Fatah proclame 2 jours de colère pour protester contre le refus israélien de libérer les prisonniers les 19 et 20 mai. Les incidents sont particulièrement violents dans la bande de Gaza à proximité de la colonie de Nezarim. De nouveau, il y a échange de tirs entre soldats israéliens et policiers palestiniens. On a un mort palestinien et plusieurs centaines de blessés, dont une vingtaine de militaires israéliens. Marwan Barouti, le chef du Fatah pour la Cisjordanie et des activistes de Tanzim, adresse un message tout aussi bien aux autorités israéliennes qu'à l'autorité palestinienne. Son mouvement rejettera tout accord de paix qui ne comprendra pas la libération de tous les prisonniers. Devant l'aggravation de la situation, Barak convoque d'urgence un cabinet de sécurité. On prend la décision de rappeler la délégation israélienne à Stockholm. Mais la principale préoccupation vient du Liban Sud. Les miliciens de l'ALS désertent en masse, puis le Hezbollah et le gouvernement libanais décident d'organiser des manifestations de masse devant ce qui reste des forces d'occupation. Les habitants expulsés depuis 1978 de la zone occupée reviennent dans leur village, encadrés par des militants sans armes de la résistance islamique. Le tout, bien évidemment, étant couvert par la presse internationale, c'est-à-dire sous les caméras de télévision. En même temps, le 21 mai, le Hezbollah lance une opération armée dans le secteur des fermes de Sheba, de façon à marquer les droits du Liban dans cette zone. Le 22 mai, il est clair que l'ALS est en train de se disloquer. Tout le secteur central de la zone occupée est libéré. Les prisonniers de la sinistre prison de Riam retrouvent la liberté. L'armée israélienne ne peut tirer sur la foule en train de progresser. Le bilan est déjà de 5 morts et de 30 blessés chez les manifestants. Et l'on craint des représailles sur la Galilée israélienne. Les Libanais les plus compromis commencent à passer avec leurs familles en territoire israélien, à la porte de Fatima, le lieu de passage. Devant cette situation chaotique, il ne reste plus qu'à accélérer le retrait israélien. Ce qui devait encore prendre quelques jours ne prend plus que quelques heures. C'est un tour de force logistique qui ne peut se substituer à la défaite politico-militaire, une retraite accélérée sous le feu de l'ennemi. Donc là, vous voyez, les miliciens laissent derrière eux de l'armement, des tanks, et les enfants jouent sur les tanks. Et puis, ici, c'est la fin. La porte de Fatima est fermée. Le 24 mai, au matin, le dernier blindé israélien passe la porte donc de Fatima, qui est ensuite refermée. Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, se félicite de la première victoire glorieuse en 50 ans du conflit israélo-arabe. En même temps, la consigne a été donnée d'éviter tout incident le long de la frontière où les patrouilles des deux camps se trouvent parfois à quelques mètres les unes des autres. La priorité est donnée à l'absence de règlement de compte sommaire. Les collaborateurs arrêtés sont immédiatement livrés à la justice libanaise. Le 25 mai devient jour de fête de la libération du Sud. Dans les jours qui suivent, les gens affluent par milliers le long de la frontière pour exprimer leur haine envers Israël après 22 ans d'humiliation et de violences diverses. C'est un véritable défoulement populaire. À la suite de quelques débordements, les autorités libanaises et israéliennes travaillent à maintenir le calme. Mais en fait, pendant plusieurs mois, les gens vont continuer à aller à la porte de Fatima pour jeter des cailloux et exprimer leur haine de l'autre côté. Environ 6500 Libanais, surtout des chrétiens, se sont réfugiés en Israël où ils sont installés dans des camps de transit. Ils sont pleins d'amertume et de ressentiment devant cet abandon. Ils s'étaient engagés du côté de l'État d'Israël au début de la guerre civile pour pouvoir sauver leurs personnes et leurs biens dans un Liban sud pris dans la tourmente des conflits communautaires. Cela leur a valu finalement 10 ans de guerre supplémentaire, la perte de leurs biens et l'exil. Un certain nombre de miliciens, surtout des chiites et des druzes, repassent la frontière les jours suivants et se livrent aux autorités. Ils savent pouvoir disposer de protections familiales suffisamment importantes. Ils sont aussi rassurés par l'absence de représailles collectives et le recours à des procédures exclusivement légales, contre les anciens collaborateurs. Les premiers jugements démontrent une certaine clémence. Les peines les plus lourdes sont de 5 ans. La plupart vont de 6 à 30 mois, plus des amendes, et il y a des non-lieux. Le retrait israélien s'accompagne d'une contrebande d'armes. Les miliciens de l'ALS vendant leur armement individuel à des Palestiniens de Cisjordanie, aux grandes dames de l'autorité palestinienne qui protestent auprès des autorités israéliennes. Pour ceux qui restent en Israël, se pose la question de leur intégration. Les Arabes israéliens n'en veulent pas et les Juifs israéliens vivent dans leur grande majorité en séparation complète avec des Arabes. À la Knesset, au nom de l'opposition, Ariel Sharon critique la façon chaotique avec laquelle le retrait a eu lieu. Il prédit de nouvelles agressions à partir du Liban. On aurait dû, avant de partir, détruire l'infrastructure civile du pays du Sud, les centrales électriques, les ponts, les routes, etc. Barak lui répond que cela n'aurait fait qu'engendrer de nouveaux cycles de violence. Il reste la question de l'application de la résolution 425. C'est-à-dire la vérification que le retrait a bien eu lieu sur la frontière internationale. La procédure débute le 26 mai et la partie libanaise multiplie les contentieux. Il existe en effet toute une série de micro-contentieux dus à des empiétements israéliens qu'en général les cartographes de l'ONU réussissent à corriger. Il reste des réserves liées à l'imprécision de la frontière mandataire libano-syrienne. Le problème se pose moins sur la frontière libano-israélienne puisqu'elle a été délimitée. Mais la frontière libano-syrienne n'a pas été délimitée. Or, les Israéliens sont sur le Golan, donc il y a une portion de cette frontière. Le village de Rajar s'est ainsi étendu des deux côtés de la frontière, ce qui ne posait pas de problème durant la période d'occupation. Le principal abcès de fixation sont les fermes de Sheba, que le Hezbollah revendique au nom du Liban. Aux questions territoriales s'ajoutent deux autres contestations libanaises, le retour de tous les prisonniers libanais détenus en Israël, qui refusent de les libérer en considérant que ce sont des criminels ayant du sang juif sur les mains, et la poursuite des survols aériens du territoire libanais par l'aviation israélienne, qui sont pour l'ONU autant de violations de la souveraineté libanaise. Pour Israël, c'est une sorte de droit acquis depuis 1975, indispensable pour sa sécurité. Quant aux prisonniers, le gouvernement israélien renvoie la question à la décision des tribunaux israéliens. Parmi les plus lucides des Palestiniens, on s'inquiète du précédent qu'on est en train d'établir. C'est ce qu'Abou Ala a expliqué à Roussavir, chargé de les transmettre à Barak dès le 21 mai. Nous sommes contre votre occupation du Liban Sud. Mais la question est de savoir comment vous allez en partir. Que diront les Palestiniens ? Qu'avec nous, les Israéliens ont négocié un accord par lequel nous leur avons donné la sécurité, que nous, l'autorité palestinienne, nous tuons des Palestiniens pour la sécurité d'Israël, et qu'en fin de compte, nous n'obtenons rien si ce n'est le report d'un redéploiement territorial. Le Hezbollah a tué des soldats israéliens, et à présent, ils obtiennent le retrait d'Israël sur les lignes de 1967. Le message pour chaque Palestinien sera clair. Tuez des Israéliens et vous aurez la terre. Arafat saisit combien il se trouve en position de faiblesse. Dans ces conditions inégales, il n'a pas intérêt à négocier le règlement permanent. Il faut d'abord qu'il démontre à son peuple des gains significatifs. Il fait donc savoir aux Américains que la négociation ne pourra reprendre qu'une fois que les Israéliens auront tenu leurs engagements précédents, c'est-à-dire tous les redéploiements et transferts prévus par les accords. Barak a une vue complètement différente. Le retrait du Liban est populaire dans l'opinion publique israélienne, mais il risque de perdre ce regain en accomplissant le retrait prévu pour le 23 juin, sans obtenir de contrepartie de la part des Palestiniens. Il faut donc que le dernier redéploiement soit compris dans le règlement final. Pour la même raison, il ne peut être question de faire passer les trois villages à proximité de Jérusalem, de la zone B à la zone A. Enfin, les rumeurs et les indiscrétions sur le contenu des discussions de Stockholm attisent la colère des colons juifs, dont certains émettent des menaces de mort contre Barak. Ce qui permettrait à l'un de négocier, l'interdit à l'autre, du fait de la faiblesse interne des deux acteurs politiques. D'où ce qu'on entre maintenant dans ce qu'on peut appeler prélude à Camp David. Pour les deux parties, l'arbitrage américain est essentiel. Barack bénéficie encore une fois de sa proximité avec Bill Clinton. Il arrache une entrevue avec le président américain en tournée européenne à Lisbonne le 1er juin 2000. Le premier ministre israélien ne voit de solution que dans un sommet tripartite à Camp David où les efforts conjugués des Israéliens et des Américains forceraient Arafat à faire les compromis que l'on attend de lui. Clinton est prêt à accepter l'organisation d'un sommet, mais voudrait que Barack préalablement remplisse ses engagements envers les Palestiniens, qu'il a lui-même garantis. Il faudrait aussi que l'on ait sérieusement avancé dans la rédaction commune de l'accord cadre. Barack refuse. Le recours à la violence par les Palestiniens ne permet pas de tenir les engagements. Toute rédaction de l'accord cadre ferait immédiatement l'objet de fuites qui provoqueraient des protestations véhémentes dans les opinions publiques israéliennes et palestiniennes. Les deux hommes transigent. Les États-Unis vont reprendre contact avec les parties avant de prendre une décision définitive. De retour en Israël pour le jour de Jérusalem, Barack réaffirme la souveraineté israélienne sur l'ensemble de la ville, ce qui provoque une véhémente protestation d'Arafat qui rappelle qu'elle doit être à l'ordre du jour des négociations et que Jérusalem-Est sera la capitale de l'État palestinien. Le canal de Stockholm se réunit pour la dernière fois en Israël du 1er au 4 juin. Les négociateurs ne peuvent se mettre d'accord sur les garanties de sécurité exigées par les militaires israéliens qui envisagent une longue période de transition pour la vallée du Jourdain. L'autre partie refuse tout ce qui pourrait apparaître comme la continuation de l'occupation. La première condition de la sécurité d'Israël est la paix avec les Palestiniens. On peut à la rigueur envisager des patrouilles communes israélo-palestino-américaines le long de la vallée du Jourdain. Les Palestiniens insistent aussi sur la centralité de Jérusalem. S'ils n'ont pas satisfaction sur le dossier, il n'y aura pas d'accord. Le prince héritier d'Arabie Saoudite, le prince Abdallah, l'actuel roi Abdallah, a été clair sur le sujet. Le royaume soutiendra tout accord de paix s'il ne comprend pas de concessions sur Jérusalem. En dépit des relations cordiales entre les négociateurs, la filière suédoise n'a pas permis de progresser. Elle s'est heurtée à la question de fond des lignes du 4 juin 67 et du droit au retour des réfugiés palestiniens. Abu Ala a voulu avancer sur l'ensemble des dossiers, mais Barack n'a pratiquement pas donné de marge de manœuvre à ses représentants. Il veut réserver la conclusion de tous les dossiers au futur sommet. Le 5 juin, Madeleine Albright arrive en Israël afin de procéder aux consultations annoncées. Mais à ce moment-là, le Chas provoque une crise ministérielle en menaçant de voter pour une dissolution de la Knesset si on ne cède pas sur ses exigences budgétaires. Barack refuse le chantage, mais doit faire face à une fronde des autres partis de la majorité menée par Sharansky, qui accuse le Premier ministre de mener les négociations avec les Palestiniens sans en discuter avec les autres membres du gouvernement. C'est donc pris dans ces difficultés intérieures que Barack reçoit le secrétaire d'État, Eros. Il refuse toujours de tenir les engagements pris envers les Palestiniens, sauf sur des points mineurs. Inversement, Arafat explique aux Américains que si Barack n'est pas capable d'agir sur les dossiers secondaires, comment le pourrait-il sur les dossiers essentiels ? Néanmoins, il accepte d'envoyer ses négociateurs à Washington. Albright pousse les Palestiniens à s'en tenir au dossier essentiel de laisser de côté les engagements non tenus. Pour les Palestiniens, il devient clair que les Américains et les Israéliens agissent de concert. S'ils n'ont pas d'assurance sur le contenu du règlement final, le sommet échouera certainement et on fera porter la responsabilité sur eux. Arafat doit aussi faire face à son opinion publique. Il a eu le malheur de déclarer à la radio israélienne que le retrait israélien du Liban Sud n'est que l'application de la résolution 425 et n'a rien à voir avec la résistance de Hezbollah. Devant les protestations, l'autorité palestinienne ordonne la fermeture des stations radio indépendantes. La contestation vient même maintenant à l'intérieur du Fatah et Marwan Barouti, son leader pour la Cisjordanie, se fait le protecteur des contestataires. Le 10 juin 2000, on annonce la mort de Hafez al-Assad à l'âge de 69 ans. Où ça s'est dit ? Attendez, j'ai un problème d'image, je vérifie. Oui, il y avait des images qui n'étaient pas là. Bon. Là, vous aviez une photo des Palestiniens qui peuvent se parler à travers le grillage frontière libano. israélien. Et c'est la première fois que les Palestiniens du Liban peuvent s'adresser à des Palestiniens d'Israël. Ici, c'est des manifestations de colons contre Barak. Je trouve d'ailleurs que la photo est assez réussie. Voilà. Donc là, c'est Albright et Barak dans leur discussion, tout sourire des deux côtés. Et ça, c'est l'annonce le 10 juin 2000 de la mort de Hafez al-Assad à l'âge de 69 ans. La succession en faveur de son fils Bachar se déroule sans anicroche, mais au détriment des procédures constitutionnelles. Il a fallu d'urgence un amendement abaissant de 40 à 34 ans l'âge minimum requis pour être élu président, l'impétrant ayant 35 ans. Des funérailles imposantes le 13 juin consacrent la transmission héréditaire du pouvoir. Jacques Chirac est le seul d'État occidental à être présent. Madeleine Albright représente les États-Unis. Les chefs d'État arabes sont venus, ainsi qu'Yasser Arafat et des députés arabes israéliens. Bachar s'engage devant ses interlocuteurs à poursuivre la politique de son père, y compris dans la recherche de la paix au Proche-Orient. À Washington, on pense que la disparition du maître de la Syrie diminuera la pression sur Arafat, qui risque moins de se faire accuser de trahir la cause arabe, Damas étant trop occupé par la transition politique. De plus, le changement de génération au pouvoir devrait permettre l'émergence d'une nouvelle classe politique syrienne plus moderne et donc plus ouverte vers l'Occident. Il faut à peu près attendre jusqu'à la mi-juillet pour que l'ensemble des procédures constitutionnelles pour la succession soient terminées, que Bachar al-Assad soit confirmé par un vote unanime ou quasi du peuple syrien à la succession de son père comme président de la République. Gumlukiya, comme on dit en arabe, ce qui est un jeu de mots, qui veut dire république monarchique. Les négociations israélo-palestiniennes se poursuivent aux États-Unis, mais tournent à un dialogue de sourds courtois. Les Palestiniens s'en tiennent à la légalité internationale qui signifie le retour aux lignes du 4 juin. Shlomo Ben-Ami leur explique que le gouvernement Barak est le seul gouvernement israélien à faire des offres tangibles aux Palestiniens. Voulez-vous plus de résolutions de l'ONU ou voulez-vous un accord? Quand le 15 juin, Arafat est reçu à la Maison-Blanche, il est particulièrement remonté. Barak vient de demander un nouveau délai pour le dernier redéploiement prévu le 23 juin. Il n'est pas question, en dépit de la garantie américaine, de rétrocéder les trois villages. Le seul geste de bonne volonté qu'il propose est la libération de trois prisonniers palestiniens. Le président de l'autorité palestinienne exige avant toute autre chose le respect des engagements pris. Il accuse Barak de vouloir le mettre au pied du mur afin de lui faire porter la responsabilité de l'échec. Il a une algarade avec Ross qu'il accuse d'être du côté de Barak. Les Américains tentent de sauver la situation en demandant aux parties d'agir de bonne foi. Négocier l'accord cadre permettra d'obtenir le dernier redéploiement. Clinton s'engage à ne pas faire porter la responsabilité sur Arafat si un sommet échoue et à soutenir un redéploiement substantiel si on n'arrive pas à un accord cadre. Ça va être pesé lourd pour la suite puisque cet double engagement de Clinton ne sera pas tenu après Camp David II. Après deux jours supplémentaires de négociations qui ne font que dresser le catalogue des divergences, les délégations israéliennes et palestiniennes rentrent au Proche-Orient. Les jours suivants, Ross explore séparément avec les deux parties les possibilités de compromis territorial. Cela lui paraît encourageant, mais il ne peut savoir si ses interlocuteurs sont mandatés pour de telles propositions ou s'ils expriment seulement des idées personnelles. D'autant plus que dans le style diplomatique, on veut faire une avancée dans ce processus de paix. On ne dit pas « je suis mandaté pour mon gouvernement de faire telle proposition ». On dit « j'ai une idée personnelle qui ?» Donc ça n'engage que moi, ça n'engage pas mon gouvernement. Donc au bout de certains temps, à force d'égager des idées personnelles, on ne sait plus si ce sont des idées personnelles ou des propositions sérieuses. Dans sa déclaration publique, Arafat blâme le manque de sérieux du comportement israélien. Barak refuse d'avancer des idées afin de conserver sa pleine marge de manœuvre pour les négociations. L'affaire du retrait israélien est incomplètement réglée au Liban Sud. Pour le secrétaire général de l'ONU, Israël s'est retiré complètement du territoire libanais en application de la résolution 425. Le gouvernement libanais refuse de l'admettre et obtient le soutien de la Russie. Le Conseil de sécurité certifie bien le 18 juin le retrait israélien, mais note l'existence de réserves de la part du Liban. Kofi Annan se rend au Proche-Orient et évoque des malentendus sur le tracé de la frontière. Il s'entretient avec Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah. En langage onusien, le Hezbollah est devenu une partie non gouvernementale. Nasrallah insiste sur le fait que la libération du Sud est due à la résistance armée et non aux pressions internationales. S'il n'est pas mis rapidement fin aux empiètements israéliens, la résistance islamique s'en chargera. Il insiste sur le dossier des prisonniers libanais. Cette affaire est essentielle pour nous et nous conseillons à tout le monde de libérer immédiatement et sans condition les prisonniers. Le gouvernement libanais dresse une liste de 17 rectifications à faire du tracé frontalier. Le secrétaire général fait la navette entre les deux pays pour trouver une solution. Les Israéliens conviennent qu'il y a des divergences d'appréciation sur le tracé de la frontière, mais qu'elles sont très minimes. La FINUL conditionne son déploiement le long de la frontière au règlement des contentieux, ce qui est un instrument de pression très fort sur l'État hébreu comme sur le Liban. Les experts de l'ONU se remettent au travail et constatent quelques empiètements israéliens. Ils demandent le déplacement de quelques mètres de certains grillages. Ce n'est qu'à la fin de juillet 2000 que les responsables de l'ONU peuvent affirmer que la question des derniers empiètements israéliens a été réglée, ce qui permettra le déploiement de la FINUL dans la zone frontalière dans les premiers jours du mois d'août. Bien entendu, cette région reste sous les trois contrôles du Hezbollah, d'autant plus que l'armée libanaise se tient toujours à distance. Mais la priorité est donnée au rétablissement de l'économie. De nombreux habitants peuvent revenir dans leur foyer, mais l'exode rural a joué. Beaucoup habitent Beyrouth et ne viennent que durant les congés. C'est encore plus vrai pour les expatriés qui se sont installés dans différentes régions du monde. Il est connu que le gros bourg de Benjbeil, qui est la capitale chiite de la zone frontalière, a plus d'habitants à Dearborn, à proximité, dans le Michigan, que dans le Liban Sud. Donc Dearborn étant appelé Benjbeil, Michigan, dans l'argot. Israéliens. Alors il faut dire que ces expatriés vont revenir, en particulier ceux du Golfe, et construire un lot de maisons particulièrement hideuses le long de la zone frontalière. C'est un chef-d'œuvre de kitsch absolument épouvantable. Je crois qu'ils ont été pour la plupart détruites en 2006. En Israël, l'épreuve de force avec le Ch'ass se poursuit. Devant la menace du parti religieux de se retirer de la majorité, Barak est contraint de faire des concessions qui conduisent la Meretz à menacer à son tour de quitter le gouvernement. L'antagonisme entre religieux et laïcs devient inconciliable. Le Meretz se retire du gouvernement, reste dans la majorité. Tous les ans, depuis 1995, le Congrès demande l'application des Jerusalem Embassy Act, qui demande le transfert de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem, alors que les États-Unis, comme l'essentiel de la communauté internationale, n'ont jamais reconnu Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. C'est pour cela qu'il n'y a que des consulats généraux dans la ville sainte. Et pour mémoire, les consuls généraux sont accrédités auprès du gouverneur général de l'ONU pour Jérusalem Corpus Separatum. Mais jusqu'ici, ils ne l'ont jamais rencontré. Tous les ans, le président des États-Unis répond par une dérogation sur la base que son application présenterait un danger pour les intérêts nationaux américains vis-à-vis du processus de paix. Cette fois, Ross, dont le fils travaille pour le sénateur Joseph Lieberman, co-auteur de l'acte, tente de s'opposer à la dérogation en se justifiant du fait que les deux parties israéliennes et palestiniennes travaillent de concert. Cela provoque une forte tension au département d'État. Finalement, Sandy Berger passe outre et obtient la dérogation le 18 juin 2000. Ce petit incident marque l'alignement de Ross sur les positions israéliennes. Même si les Palestiniens n'ont pas connaissance de l'affaire, ils n'ont plus confiance dans le médiateur. Elles font savoir dans des conversations privées avec leurs autres interlocuteurs américains. Dans les campagnes électorales en cours aux États-Unis, le transfert de l'ambassade à Jérusalem est soutenu par la grande majorité des candidats. George W. Bush est l'adversaire d'Hillary Clinton à l'élection sénatoriale de New York. Pour l'administration Clinton, il faut une estimation préalable des chances raisonnables de succès pour un sommet tripartite avant de prendre la décision de le convoquer. C'est le but de la nouvelle tournée de Ross qui commence le 23 juin. Il utilise les réticences de Sandy Berger et de Madeleine Albright pour faire pression sur Barack afin de connaître ses positions finales. L'intéressé reste peu coopératif et refuse le principe d'échange de territoire, même symbolique, et d'aborder la question de Jérusalem. Pressé par le négociateur, il se déclare prêt à rendre 88% de la Cisjordanie. Une réunion est ensuite organisée avec les principaux chefs de la coalition gouvernementale qui entendent pour la première fois les positions du Premier ministre. Dans ses entretiens avec les Palestiniens, l'envoyé américain ne voit pas d'ouverture. Il reste ferme sur les réfugiés, les frontières et Jérusalem. Parallèlement, une discussion a lieu entre une délégation israélienne et Arafat et on n'arrive pas à se mettre d'accord. Abu Ala présente sa dimension. On ne peut rien attendre des négociations avec les Israéliens puisque ces derniers veulent régler tout d'un seul coup au sommet tripartite. Or, un sommet ne peut réussir que si les positions se sont préalablement rapprochées. Arafat refuse la démission, mais il est clair que la partie palestinienne est très divisée. Pour augmenter la pression, le chef de l'autorité palestinienne annonce la proclamation de l'État palestinien dans quelques semaines, pour le 13 septembre 2000. Les Israéliens répliquent que ces propos extrêmes portent atteinte aux espoirs d'arriver à un règlement définitif. Les militaires israéliens s'inquiètent du risque de retour de la violence de la part des Palestiniens. Leurs responsables ne les préparent pas aux inévitables concessions qui impliquent la conclusion d'un accord. L'armée israélienne fait savoir qu'elle est prête à affronter une violence incontrôlée et que les Palestiniens en paieront chèrement le prix. Quant au sommet tripartite, les responsables palestiniens expriment publiquement leur réticence. Il ne leur paraît pas suffisamment préparé pour pouvoir déboucher sur un succès. Donc là, c'est la finule au Liban qui se déploie. C'est dans ce contexte que Madeleine Albright arrive en Israël le 27 juin. Elle doit faire face à l'immobilisme des acteurs. Barak refuse toujours de révéler quelles seront ses intentions. Inévitablement, le secrétaire d'État exerce des pressions sur Arafat. Il a trois options possibles. Pas de sommet, des négociations à bas niveau et une paralysie de fait. 2. Un sommet qui crée la possibilité d'un accord. 3. L'approche palestinienne traditionnelle de rechercher une victoire à la Pyrrhus en obtenant un troisième redéploiement limité, déclaré un État en septembre, ce qui produirait une réaction israélienne dure. Selon son estimation, seule l'option 2 est valable. Il faut prendre le risque calculé d'aller à un sommet. Arafat lui répond que s'il y a un sommet et qu'il échoue, les gens perdraient l'espoir. On ne peut pas se permettre un second Genève. Il accepte néanmoins le sommet si on s'accorde 2 semaines de préparation supplémentaire. Barak rejette la perspective. Ce serait négocier avec soi-même. Les Palestiniens rejetteraient les propositions israéliennes et demanderaient plus. Le sommet est la seule solution. Il répète publiquement cette position, ce qui rend vain tout projet de prénégociation. Une nouvelle fois, les Palestiniens se sentent trahis par les Américains. Pour Madeleine Albright, il faut savoir se montrer réaliste. Elle connaît bien la réticence de la direction palestinienne, mais Barak est le seul premier ministre israélien à vouloir vraiment la paix. C'est le moment ou jamais. Les Américains sont au pied du mur. En ce qui concerne le calendrier, le sommet tripartite ne peut se dérouler lors des conventions démocrates et républicaines prévues pour le début du mois d'août. Il doit donc se tenir à juillet. Clinton doit être présent au G8 qui se tiendra à Okinawa du 21 au 23 juillet. À partir de septembre, on sera en pleine campagne électorale. L'autorité du président sortant s'érodera constamment. Comme on dit en américain, ce sera un canard boiteux. L'entourage du président est partagé. Le conseiller à la sécurité nationale, Sandy Berger, est pessimiste. Ross et Albright, plus optimistes, mais considèrent qu'il faut obtenir plus de baraques, en particulier des gestes envers les Palestiniens, comme le transfert des trois villages et des libérations de prisonniers. Il faut aussi qu'il admette le principe d'échange de territoire et la cession d'une partie des banlieues arabes de Jérusalem dans le règlement final. Clinton penche pour la tenue du sommet. Ne rien faire risquerait de mettre fin au processus de paix. Le président téléphone au premier ministre israélien le 1er juillet 2000. Barak se montre évasif devant les demandes américaines, mais affirme qu'il se montrera flexible dans la négociation. Sandy Berger y voit un mauvais signe, Ross un élément encourageant. La décision finale est prise à Camp David le 4 juillet. Maintenant, Berger et Albright jugent que c'est le moment ou jamais, sinon tout risque de s'effondrer au Moyen-Orient. Albright évoque même le jugement de l'histoire si les Américains flanchent. Clinton est plus hésitant. Il craint les conséquences d'un échec sur la campagne électorale américaine. En même temps, son vice-président et candidat à la succession, Al Gore, lui a vivement recommandé de tenir le sommet s'il doit avoir lieu le plus tôt possible, afin de ne pas compromettre la campagne démocrate. Un entretien téléphonique avec Barack le décide. Le premier ministre israélien se déclare prêt à libérer une trentaine de prisonniers au début du sommet et envisage en cas d'avancée décisive des mouvements symboliques limités sur les échanges de territoires et sur les banlieues arabes de Jérusalem. Dès lors, Clinton propose la date du 9 juillet comme début du sommet. Il s'adresse ensuite à Arafat qui propose que l'équipe palestinienne vienne immédiatement à Washington, tandis que lui-même ne viendrait que le 11. Clinton lui explique que le temps compte et que si l'accord est obtenu avant le 19 juillet, il pourrait mobiliser l'aide matérielle du G8. Arafat promet d'arriver le 10 et obtient de nouveau l'engagement qu'on ne lui ferait pas porter la responsabilité en cas d'échec. Donc, nous sommes en pleine angoisse avant ces vacances. Est-ce que le sommet de Camp David 2 va réussir ou non? Nous reprendrons ça donc la fois suivante. Je vous remercie tous et je vous adresse mes meilleurs vœux pour les fêtes et l'année qui vient.